Michel, et l'émission Route 66 démarre avec Jean-Luc et David.
Et en ces premiers jours du printemps, j'ai décidé de vous offrir une émission pleine de chaleur, la chaleur des Caraïbes, celle qui a influencé le blues des tout débuts, puisque c'est de la musique d'Haïti dont on va parler à travers celui qui est peut-être le meilleur représentant du genre en France actuellement. Son nom ne vous dit peut-être rien, c'est normal, c'est un tout nouvel artiste qui vient de sortir son premier album, à savoir Monsieur Carlton Rara, chanteur et percussionniste de son état. Nous y reviendrons d'ici quelques minutes, mais auparavant, nous allons ouvrir le show avec celle qu'il avait déjà ouvert la semaine passée, à savoir Madame Nina Von Horn, qui nous revient avec un nouvel album qui s'appelle All Hell of a Woman, qui paraît dans les jours qui viennent sur le label Wistiti. Alors sur ce disque, elle reprend certains standards immortalisés par des grandes chanteuses d'avant-guerre, telles que Sister Rosetta Tharpe, puisque c'est un morceau de cette grande dame que l'on vous propose tout de suite, revu et visité par Nina Von Horn et son gang. Ça s'appelle This Train. C'est parti.
This is Duke Robillard, and you're listening to the Route 66 show on WLDL.
Get so weary, would cry the whole night through, thinking about my troubles and the hardships I've been
CD pour regrouper les meilleurs morceaux de Monsieur Duke Robillard, c'est chose faite depuis peu par le label Dixie Frog à travers un sublime triple album nommé Duke's Box qui regroupe justement des dizaines de morceaux de ce grand chanteur et guitariste que l'on a reçu, on a eu l'honneur de recevoir cette légende du blues l'année dernière dans l'émission, ne l'oublions pas. Et donc 3 CD sur lesquels il y a énormément de titres connus, mais également quelques morceaux inédits, dont une version instrumentale et très swingante du fameux Rehab de Mademoiselle Amy Winehouse. Enfin, je vous en dis pas plus pour le moment, mais restez à l'écoute la semaine prochaine si vous aimez à la fois Duke Robillard et Monsieur Bob Dylan, puisque nous terminerons l'émission dans 8 jours avec une reprise absolument splendide du Love Sick de Dylan. Je vous en dis pas plus, ça dure plus de 8 minutes. Écoutez la semaine prochaine, vous aurez un grand grand choc en entendant ce morceau. Nous passons tout de suite au sujet principal de l'émission d'aujourd'hui, à savoir la présentation de cet artiste dont je vous ai parlé au début de l'émission, Monsieur Carlton Rara, percussionniste et chanteur de son état, né d'une mère haïtienne et d'un père français. Alors il faut savoir qu'il est chanteur, compositeur, percussionniste et qu'il est doté d'une voix assez peu commune. Hein. Il nous régale notamment de sa musique métissée. En créole ou en anglais, il chante le blues d'Haïti et perpétue à sa manière toute singulière la culture du marronnage haïtien, restée indomptée depuis 2 siècles, absorber toutes ses influences de façon à les changer en passerelle vers la liberté plutôt que d'y rester soumis. C'est un beau message qu'il va nous livrer durant pas loin de 3 quarts d'heure, puisque l'interview est particulièrement longue et elle sera agrémentée évidemment de 4 extraits de son album qui vient de sortir sur le label Iris Music. Le disque s'appelle Pays Blue. Je remercie au passage toute l'équipe d'Iris Music qui m'ont reçu chez eux afin de réaliser cette interview, et plus particulièrement la personne chargée des relations avec la presse, à savoir Sarah. C'est parti tout de suite pour cette séquence consacrée à ce jeune artiste à travers un premier extrait de son album qui s'appelle Shukun. Et juste après, on commencera à vous diffuser l'interview. Place à Carlton Rara sur le 103.5 FM.
Des oiseaux dans le bois, on compte pour tes belles mains. Les moins, ouais, moins, c'est déjà la belle mine. Son marabout qui vient du Pénégel, pour que nous n'appelions plus à lui le choukou. C'est pas ma tire, choukou, bien belle. Choukou, choukou, choukou. Vin le pays d'Haïti encore. Voye chachou men nou pa kon wèm, kon nou pa ka dousen. Choukoum, 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 vin la kay nou anko. Mwen mèm gou choukoum nan rev mwen yo, kose nan rev mwen vwe jen bel. Ose bat le chente choukoum, li
déjeme suponer ya. Te la lapin de pierre chien, a te de bebel pour mon gaga. Nous êtes machine en bois longtemps, mais nous pas une belle mounin. Nous petits oiseaux qui pas paraît content. Din choukoun sorti à nan pays blanc. Oh oh oh, choukoun, choukoun, choukoun. Din nan pays d'Haïti encore. Nous voyons si à tout nous pas conjoint, nous ne nous pas qu'à vous s'aimer. Choukoum, 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 viens la caille nous encore. Moi-même, vous choukoum, n'en rêve moins beau, vous n'en rêve moins bien belle.
Elton, je crois que tu as grandi dans un milieu qui était déjà très artistique. Alors, est-ce que tu pourrais revenir justement sur ton apprentissage musical ?
Oui, effectivement, j'ai grandi pour ainsi dire dans une salle de spectacle, puisque mon père était organisateur de spectacle dans une grande salle et où j'ai vu beaucoup de gens. Donc ça a été très très formateur, que ça soit au niveau du théâtre, de la musique, enfin toutes les formes artistiques qu'on peut voir défiler dans une salle de spectacle. Et donc ça, c'est vraiment la première formation qui est liée au spectacle, c'est-à-dire à savoir ce que c'est véritablement que de monter sur scène. Et puis après, la musique est venue un petit peu après. Le choix s'est porté plus sur la musique que sur autre chose.
Est-ce que justement tu as des souvenirs de cette période de musicien qui t'aurait spécialement marqué, si vous voulez lesquels et...
Oui, il y a beaucoup de musiciens qui m'ont effectivement marqué. Il y avait pas mal de musiciens de jazz en particulier qui passaient, et puis des grands noms comme Dizzy Gillespie par exemple, mais qui m'a vraiment marqué par une présence comme ça, un charisme évident et puis une chaleur surtout. Et puis d'autres gens aussi, peut-être un peu, enfin pas moins connus, mais disons avec un charisme différent, comme Wadley Key par exemple, Je me souviens également de Lionel Hampton. Bon, ça c'est pour les musiciens de jazz, mais j'ai un très très bon souvenir aussi extraordinaire de cette femme qui est venue avec simplement une petite guitare et un micro, qui s'appelle Mercedes Sosa. Donc voilà, de très grandes leçons et artistiques. Et humaine, tout simplement.
Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu pratiquais déjà de la musique? Est-ce que tu as pu discuter un petit peu avec eux, leur demander des conseils? Tu me parles de quelqu'un tel que Herb Blackley, par exemple. Toi qui es percussionniste, c'est quand même une référence absolue. Est-ce que t'osais aborder ces gens-là?
Alors, pour certains, j'étais relativement jeune quand même. Donc, l'idée d'envisager une carrière musicale ou artistique n'avait pas totalement germé en moi encore. Donc, j'avais la chance d'être avant, pendant et après le spectacle. Donc, ça me permettait effectivement d'avoir un rapport avec ces gens-là, mais qui, du coup, étaient beaucoup plus axés sur les choses simples de la vie plutôt que sur la prestation artistique qu'ils allaient faire. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir jamais vraiment demandé à quelqu'un un conseil, ou alors de façon, disons, très philosophique, sans attendre de la réponse que elle soit ni définitive ou qu'elle me serve simplement à moi seul.
L'apprentissage des percussions, ça a été ton grand saut dans la musique, ça a été tes premiers instruments.
Oui. C'est-à-dire que la percussion, elle est partout autour de nous. Vous attrapez une boîte en carton ou un seau ou n'importe quoi, ça fait une percussion. Donc j'ai toujours, depuis longtemps, tapoter sur les choses en essayant de chercher des rythmes. C'est quelque chose qui m'habitait depuis toujours. Et puis après, petit à petit, on structure ça au fil des rencontres de gens qui, eux, ont des techniques à vous enseigner. Et ils vous les enseignent, ils vous apprennent à vous servir de vos mains, par exemple, ce qui est essentiel dans la percussion. Et à partir de là, bien souvent, les enseignements formels, magistraux, ne durent pas très longtemps. En tout cas, leur conclusion, c'est qu'une fois qu'on a la clé, c'est à soi de travailler et d'aller chercher, d'aller fouiller des choses. Mais c'est toujours très important d'avoir des exemples et de suivre, entre guillemets, plus ou moins une école. Et puis après, d'oublier très largement ce qu'on a appris pour pouvoir réinventer, ou en tout cas les choses rejailliront plus tard d'une manière ou d'une autre.
Justement, comment qualifierais-tu ta musique?
Ma musique est instinctive, s'il fallait trouver un mot. Ma musique est un espace de liberté qui ressemble beaucoup, je pense, à ce que je suis vraiment. Voilà.
Ton dossier de presse spécifique que tu pratiques un blues d'Haïti. Comment définir exactement cette musique? Est-ce que tu revendiques dans ce que tu fais un certain héritage de blues?
Oui, évidemment. Mais blues d'Haïti. Haïti est un pays qui porte en lui déjà une certaine forme de blues dans sa musique traditionnelle. De par son passé, son héritage, le fait d'être nostalgique d'un continent pour un peuple dont on a été arraché, duquel on a été arraché, vous fait tomber en plein dans les thématiques du blues. Alors après, pour les sonorités beaucoup plus attaché à l'idée générale qu'on peut se faire du blues, elles sont simplement héritées d'influences que j'ai eues, mais qui m'apparaissaient de façon si évidente que l'héritage, par exemple, de la musique haïtienne. Il m'a suffi de en une fraction de seconde de mettre un peu de Taj Mahal dans mon oreille, ou encore de Muddy Waters, j'en passe évidemment, et des meilleurs, pour immédiatement ressentir cette vibration-là, et me dire aussi que c'était un chemin qu'on pouvait suivre. Voilà.
Sort ton album, le premier je crois. Pourquoi avoir attendu autant de temps, bien que tu sois encore jeune, pour sortir ce premier disque, puisque c'est vrai qu'il en ressort quand même une certaine maturité malgré tout.
Eh bien en fait, tout simplement peut-être par des formations pas professionnelles mais dues à mon expérience, pour moi la musique était avant tout quelque chose qui se passait sur scène. Et donc, ça a toujours été la priorité. Lorsque j'ai travaillé dans ce sens-là, j'ai avant tout travaillé pour pouvoir amener ça sur la scène. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à mettre en forme la musique pour qu'elle soit, elle existe vraiment telle qu'elle doit vraiment exister, c'est-à-dire en live. Alors après, techniquement, effectivement, on peut aussi enregistrer cette musique et pouvoir la restituer, voilà, sous forme de disque. Mais disons que c'était pas une priorité, c'est devenu finalement aussi une forme de réponse par rapport à un public qui me disait à la fin des concerts qu'ils auraient bien ramené un souvenir de moi dans leur salon. Et donc du coup, ben, c'est pour répondre à ça, sachant que voilà, on fait les choses, ça va être croqué comme ça sur un disque, mais après ça n'appartient plus à grand monde. Et puis ce qui doit rester vivant, c'est la musique, c'est-à-dire ce qu'on fait, ce qu'on l'on crée à un moment donné, à un endroit donné.
Est-ce que tu pourrais me présenter les musiciens qui t'accompagnent sur cet album? Est-ce que ça fait longtemps que tu joues avec eux? Est-ce que ce sont tes musiciens de scène depuis un grand nombre d'années?
Alors, sur cet album, on peut trouver Yves Jason, qui a fait essentiellement toutes les rythmiques des morceaux, donc guitare rythmique. Yves, ça fait pas très très longtemps que je partage la scène avec Yves, ça fait un petit peu plus d'un an, mais la rencontre a été belle, donc les affinités se sont constituées très rapidement. Serge Tamas également m'a fait l'honneur d'être sur ce disque. Serge, ça fait déjà maintenant pas mal d'années que je travaille avec Serge sur d'autres projets, donc de scène par ailleurs. Et s'est ajouté à ce projet Richard Andrian Vosoa, qui est d'origine malgache, lui, d'où son nom un peu à rallonge. Et Rija a été très vite séduit par ce projet et a voulu en être, à ma demande d'ailleurs. Donc voilà, je me suis retrouvé avec trois guitaristes pour le prix d'un. mais ils ont voilà des couleurs de guitare tellement différentes et des façons d'aborder ça que c'était intéressant de les réunir et de travailler sur un projet commun. Voilà.
Pour revenir à cet album, on remarque qu'il a des airs traditionnels haïtiens. Alors comment les as-tu choisis? Peux-tu me dire de quoi parlent ces chansons?
Alors, en fait, ces morceaux, évidemment, ça fait déjà quelques années que je les ai dans les packs pour les avoir donc amenés sur scène. Je ne les ai pas, je pense, vraiment choisis. Ils se sont plutôt imposés à moi. Il m'est apparu évident que je pouvais les réinventer, contrairement à d'autres, d'ailleurs, qui me semblent très intouchables. Et disons que les thématiques sont diverses et variées, elles sont très liées au quotidien, à la vie. Les chansons traditionnelles vaudou souvent interpellent les esprits, qu'on appelle les lois chez nous, les interpellent soit pour leur demander des comptes, ou pour les remercier, ou pour faire une incantation. Et à partir du moment où on a une relation avec cette musique-là, on commence à avoir aussi une relation spirituelle, donc avec les esprits qui sont liés. Donc tout ça devient un ensemble qui est structuré par lui-même. Donc on a parfois le choix effectivement d'essayer de faire exister ça d'une façon assez propre, mais en même temps on est aussi tenu par cette tradition, par sa couleur et par sa structure, oui, justement. Alors c'est difficile de pouvoir dire de quoi, comme ça en bloc, de quoi parlent vraiment les choses, surtout que dans ces litanies qu'on retrouve dans les chants vaudous, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées en très très peu de mots, et puis il y a aussi beaucoup de poésie, c'est-à-dire que il y a un langage qui est utilisé qui est très très imagé et qui a une signification au-delà de la signification littérale. Voilà.
Y a-t-il un côté contestataire dans ces chants? Et si oui, puisqu'ils sont très anciens, est-ce que tu penses-tu qu'ils puissent s'appliquer à la vie d'aujourd'hui, au XXIe siècle?
Oui, bien sûr. Il n'y a pas, à proprement parler, un côté contestataire, mais en tout cas un côté une idée de résistance, de résilience dans ces chants. Et ils sont, à mon sens, complètement universels et complètement intemporels. Car ces idées-là, ces notions philosophiques ou de contestation, ou de lutte, ou de résistance, sont des idées qui sont propres à l'homme, qui sont éternelles, et même si les combats d'hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui, il n'en est pas moins que ça reste des combats, et qu'il faut aller chercher l'énergie et l'inspiration qu'il faut pour pouvoir les mener.
T'inspires-tu de ces textes pour tes propres compositions, pour tes propres écrits ?
Oui, bien sûr, à telle enseigne d'ailleurs que parfois les gens se méprennent et pensent que mes compositions sont des chants traditionnels et que certains chants traditionnels sont des compositions. Oui, parce qu'une fois qu'on appréhende cette langue, ce langage précisément, on finit par la parler soi-même et donc par créer et inventer dans cette langue-là, dans ce langage-là. Je ne parle pas simplement du créole, je parle vraiment de la langue, de toute la poétique, de toute la spiritualité qu'il y a derrière. Oui, donc ça m'inspire profondément, et puis ça fait partie de moi. Il y a un compatriote et collègue aussi qui est musicien, qui un jour m'a dit: mais Carlton, tu sais, tu as ça dans le sang. Je trouve cette expression toujours très bizarre, cette histoire d'avoir les choses dans le sang, parce que finalement on peut se dire que la culture ou la nature n'a rien à voir avec la biologie intérieure. Mais un jour j'ai compris, et c'était assez inexplicable, qu'il y a des choses effectivement qui vous habitent au-delà de l'expérience que vous avez pu avoir. Ça m'évoque, ça me fait penser à la chanson de Maxime Le Forestier, Être né quelque part. Voilà. C'est à la fois déterminant et puis ça ne veut rien dire aussi.
Voyager, voyager, qu'a passé à ton moins là, voyager qu'a passé à ton moins là,
voyager
qu'a passé à ton moins là, moi pas papa.
pour moi. Pardon papa, y'a pour moi. Pardon maman, y'a pour moi. Pardon papa, y'a pour moi. Y'a pas moins. Parlons papa. Parlons maman moins. Voyager qu'à passer à ton moins là, pas de moins.
Voyager.
Voyager qu'à passer à ton moins là, pas de moins.
Voyager.
Moi pas pour vieillir, moi pas pour te demander où aller les souvenirs. Moi vieillir yon bagage, moi qu'à faire de tout les romans. Moi vis un coup. Moi j'ai qu'à passer. Moi qu'à faire de tout les romans. Moi vis un coup. Voyage qu'à passer, moi qu'à se détourner au point, ne rien à vous. Voyage qu'à passer, moi qu'à se détourner au point, ne rien à
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer à travers tes concerts des musiciens venus d'horizons totalement différents du tien et de les rencontrer scéniquement, artistiquement également et de participer à des buffs ou des jam sessions avec des artistes qui viendraient d'un univers totalement autre?
Pas vraiment. Il y a des choses qui se sont improvisées, effectivement, même de façon assez exceptionnelle. Il y a quelques années, j'avais participé à un festival en Afrique du Sud, où à l'époque j'étais en solo, donc j'avais uniquement le tambour et le chant. Et il y avait un groupe de rhythm and blues, soul vraiment, qui venait d'Angleterre. Et j'étais passé avant ces gens, et ça les avait énormément touchés ce que j'avais fait, alors que c'était vraiment plus axé sur le traditionnel à l'époque. Et moins métissé que ce qu'on peut entendre dans Pays Bleu aujourd'hui, touché au point de me dire mais viens sur scène maintenant avec nous parce que on a envie de ça, on a besoin de ça. Et donc j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice en jouant avec eux directement, alors que c'était pas du tout prévu et que c'est très difficile de faire ça dans un festival, mais il s'agit du groupe Chunky But Funky, qui est mené par un espèce de personnage très très attachant qui se fait appeler le révérend d'ailleurs, parce qu'il a un côté un peu prêcheur comme ça. Et donc voilà, j'ai aussi eu l'occasion de jouer avec Doudou Ndiaye Rose, mais on a une culture qui est commune. On peut pas dire que ce que fait des gens comme Doudou Ndiaye Rose soit très très éloigné de ce qu'on peut faire en Haïti par exemple, ou de ce qui donc mais d'horizons très différents. Non, je vous cacherai pas que j'ai une très grande sensibilité aussi pour le rap américain, et plus précisément le rap West Coast d'ailleurs. Voilà, c'est un scoop, vous saurez qu'Anton Rara est plus West Coast que East Coast, et je trouve qu'il y a une très très grande musicalité dans ce qu'ont inventé les gens comme Snoop Doggy Dogg ou Warren G ou Dr. Dre, et voilà, une très très belle musique, et même cette façon de scander, de dire des mots. On aura compris que l'important n'est pas dans la signification de ce qui est dit, mais dans la façon dont c'est amené. Et je serai très très content de s'il m'était proposé un jour de participer à un album hip-hop comme ça, ou rap, oui, ça me plairait beaucoup.
Pourquoi te limites-tu au chant en créole et en anglais sur ton album, ce qui est déjà pas mal évidemment en soi, mais pourquoi n'abordes-tu pas des chants en français?
Ça c'est assez simple, j'en ai résolu l'explication. Grosso modo, ces trois langues, qui sont l'anglais, le créole et le français, sont plus ou moins des langues maternelles, sont des langues que j'entends depuis que je suis petit. Techniquement parlant, on observe quand même que, et dans le créole et dans l'anglais, il y a une musicalité déjà dans ces deux langues qui est évidente, et donc ne serait-ce que pour constituer une matière, une base de travail, c'est beaucoup plus évident de chanter en anglais à partir du moment où ces langues vous habitent. Alors que le français reste quand même une langue assez atone, où il faut aller inventer les inflexions, et voilà. Donc, mais en l'occurrence, le français ne me sert pas vraiment à créer. J'ai eu du mal, j'ai essayé de voir, mais ça ne, la sauce ne prend pas. Et puis, automatiquement, effectivement, les choses sont lors de la création sortent d'abord en créole ou en anglais, peut-être parce qu'effectivement, je travaille beaucoup avec le rythme, avec la sonorité, et le français me sert plutôt à travailler l'intelligence et l'argument. Voilà.
Ton album vient juste de sortir, donc il est un petit peu tôt pour parler. Déjà le projet, mais je pense qu'au moins au niveau scénique, il y a des choses à venir. Est-ce qu'il y a des festivals qui se profilent? Si oui, te sens-tu plutôt limité à des manifestations plutôt world, ou arrives-tu à élargir un petit peu ta palette en ce qui concerne les endroits que tu fréquentes, scéniquement parlant?
Non, justement, je suis agréablement surpris de savoir à quel point le disque est assez universel et va... faire écho comme ça à des sensibilités très différentes. Non, beaucoup de gens veulent m'accueillir à des titres différents. Voilà, il y a des gens qui évidemment seront plus sensibles au côté world, d'autres au côté blues qu'on peut trouver. Il y a même des festivals de jazz qui se manifestent, comme le festival de jazz d'Oloron dans les Pyrénées, qui m'accueillera au mois de juillet. Il y a également le festival des couleurs du jazz de Corbeil-Essonnes qui serait ravi de m'accueillir, et les radios blues sont contentes de passer l'album. Je serai donc au Sunset à Paris le 18 et 19 mars. C'est le Sunset a développé une programmation world, mais disons que c'est pas spécifiquement un lieu où on fait de la world à la base. Donc c'est je suis un peu passe-partout et assez universel, et cette idée me plaît bien.
As-tu une conclusion à ajouter?
La conclusion, c'est que je suis très content d'avoir fait ce disque, parce que c'est une façon effectivement aussi quelque part de valider l'accomplissement de quelque chose, même si ça c'est précisément le début d'une aventure et non la fin. Et puis j'ai envie tout simplement de remercier les gens à qui je dois quelque chose, et ça tout le monde les gens qui sont concernés se reconnaîtront très facilement. Et puis je veux remercier aussi Iris Music de m'avoir laissé faire tout simplement ce que je sais faire, comme je l'entendais, sans aucune forme de restriction particulière, et en ayant une confiance comme ça sur l'artistique, presque aveugle. Et donc je remercie vraiment Iris de cette confiance-là, parce qu'elle est aujourd'hui assez rare. Voilà.
Un
et en plus il s'est sifflé. Si le style musical de Mr. Carlton Rara vous convient, sachez que son album s'appelle Pays Blue, il est paru sur le label Iris Music. Nous sommes passés successivement les titres Shukun, My Enemy, Zango et à l'instant mon morceau préféré de l'album, Dead But Still Cooking, un titre qui me fait bien sourire en tout cas. Carlton Rara, vous pourrez bientôt le retrouver sur notre site internet sur laroute66.free.fr où son interview sera transcrite avec des photos à la clé, parce qu'en plus le jeune homme devrait plaire à nos plus ferventes auditrices, hein. C'est plutôt un beau mec. Et sachez que sur le site vous pourrez retrouver plein d'autres nouveautés également dans les jours à venir. Il y a eu des mises à jour de fait dernièrement, notamment en ce qui concerne quelques interviews, hein, je sais pas, bon, celle de Popa Chubby en ligne depuis un moment, la dernière en date est celle de Guy l'Américain dont s'était passé l'interview la semaine passée, et puis il y a eu un reportage également de mis en ligne qui connaît un vif succès, celui sur le paléontologue Pascal Tassi, hein, qui a écrit un ouvrage où il mêle sa passion de la paléontologie mais également celle de la musique et du whisky. Mais ça, nous en reparlerons au mois de mai, au moment de la sortie du livre. Je vous rappelle donc l'adresse du site sur laroute66.free.fr. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une émission, cette fois-ci 100% musicale. J'en profiterai pour vous passer vraiment les dernières sorties discographiques, hein, parce que c'est vrai qu'avec toutes ces interviews, je n'ai pas toujours le temps de toutes les diffuser durant les émissions passées. Voilà, que dire de plus, sinon que Carlton Rara a un MySpace, évidemment, hein, c'est www.myspace.com/CarltonRara, ça s'écrit CARLTONRARA, et puis il a également un site internet www.carltonrara.com. On se quitte en musique, et en musique particulièrement festive, la folie du festival de jazz de Montreux. Vous allez la vivre immédiatement, comme si vous y étiez. C'était en 1994, pourtant il y a déjà un certain temps, avec Mr. Willy Deville. L'album sort ces jours-ci sur le label Eagle Records. C'est son live à Montreux qui date de cette année. Un événement à ne pas manquer, hein, d'autant plus que en fait c'est un packaging qui regroupe à la fois le CD et le DVD du concert. Vous pouvez danser, vous pouvez vous lâcher, parce que vous verrez, c'est vraiment une musique qui appelle à faire la fête. Willy Deville est l'un de ses morceaux emblématiques sur scène. Je vais essayer de le dire sans me tromper. Demasiado Corazón. Willy Deville, allez, moi je sens que je vais me lâcher là. Bonne route à vous toutes et à vous tous. Et puis rendez-vous dans 8 jours. Salut.
Merci beaucoup.